Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Une petite introduction pour citer quatre prix d'une association qui nous est proche, l'association 813, qui est la plus grande association autour des littérateurs policières en France. Donc ils décernent chaque année quatre trophées. Trophée du meilleur roman francophone attribué à Christian Roux pour Adieu Lily Marlène chez Rivage. Puis pour les romans étrangers, attribué à Jonas Beu pour un roman qui s'appelle Le Fils à la série noire Gallimard. C'est un roman traduit par Hélène Hervieux.
Traduit du norvégien.
Du norvégien, merci Jacques. Enfin, le prix Maurice Renaud, meilleure contribution aux littératures policières, attribué à C'est l'histoire de la série noire, chez Gallimard. C'est une édition publiée sous la direction d'Alban Cerisier et Franck Lomo. Pardon. Je terminerai par le trophée 813 de la bande dessinée, qui est attribué à une bande dessinée, donc forcément, qui s'appelle Les Nuits de Saturne. Le dessin est de Pierre-Henri Gaumont et c'est d'après un roman que l'on promeut depuis des années et des années, Carnage Constellation de Marcus Malle.
Pierre-Henri Gaumont qui a fait l'adaptation et les dessins de cette...
Je précise d'ailleurs que le roman de Marcus Malte est disponible en collection de poche et il faut vraiment découvrir ce magnifique texte, pardon, là j'ai un petit chat dans la gorge. Aussi un petit clin d'œil à un auteur, Colin Neal, puisque cette année il cumule pas moins de 6 prix avec son roman Obia qui est paru aux éditions du Rouergue, Rouergue Noir. 6 prix, prix Quai du Polar en avril, puis il vient de voir le prix Polar Michel Lebrun, le prix du Polar de Lamballe il y a une dizaine de jours.
Mille feuilles noires,
le prix des lecteurs Villeneuve-les-Avignon, ça c'était en octobre, un prix dont j'ignorais l'existence, le prix Saint-Pierre et Miquelon, récit de l'ailleurs, et enfin le prix des lecteurs d'Anthony. Voilà, en fait j'ai cité 6, mais c'en est 7.
Donc, récit d'ailleurs, parce qu'en fait ça se passe en Guyane.
Voilà, donc Obia, Colin Neal, chez Rouergue Noir, aux éditions du Rouergue, il n'a pas eu ses prix par hasard, c'est un très bon roman. Et nous allons donc commencer cette émission par vous parler d'un auteur, auteur féminin, mais vous entendez pas le « e », qui en cet automne a une double actualité. Un roman d'abord, qui s'appelle « La maison hantée », et puis une bande dessinée dont vous parlera Jacques tout à l'heure. Cet écrivain, toujours pas au féminin, c'est Shirley Jackson. Shirley Jackson aurait 100 ans cette année, et on est en décembre, c'est presque jour pour jour, puisqu'elle était née, je crois, un 16 décembre. Elle est décédée voilà plus de 50 ans et le roman dont je vais vous parler a été écrit en 1959, traduit en France en 1979 sous le titre Antise. La première traduction fut de Dominique Molls. La traduction est aujourd'hui révisée par Fabienne Duvigneau. L'histoire
aux éditions Rivage Noir, tu l'as pas précisé, je le fais donc.
Chez Payot Rivage. L'histoire, on peut raconter le début mais ça paraîtra peut-être un peu fade. Faut vraiment découvrir la plume et le style de Shirley Jackson pour en découvrir et en goûter toutes les qualités. Or donc, quatre personnes d'univers très différents se retrouvent dans une maison très bizarre qui s'appelle Hill House pour y passer l'été afin d'y étudier des phénomènes étranges, paranormaux, qui hantent cette demeure mystérieuse depuis sa construction au XIXe siècle. On a le docteur Montague, celui qui réunit les autres, un spécialiste donc de ce type d'événements surnaturels. Et puis on a Eleanor, Théodora, ainsi que Luc, l'héritier d'ailleurs de cette maison victorienne. Il semble avoir un petit peu des propriétés, on va dire, mémoniques, je crois, pour recevoir ces ondes bizarres. le brandy aidant, à leur arrivée, ils s'installent joyeusement, malgré les avertissements de la gouvernante, Mrs. Dudley. Mais la nuit, des hurlements sinistres, les coups commencent à ébranler non seulement les lourdes portes, mais aussi l'esprit des quatre hôtes. Théodora semble la première victime, mais finalement, c'est l'esprit d'Éléanor, la plus faible d'entre eux, qui va petit à petit vaciller, chanceler sous les coups de boutoir de cette abominable chose, la maison. Car c'est elle, en fait, le personnage principal, la maison. On s'y perd, les plans à la main, les pièces semblent s'éloigner, se rejoindre. Construction labyrinthique, hauteur d'un fou ou d'un maniaque, qui sait. Les planchers penchent, les portes se ferment à l'envi, la tour semble elle-même changer de place, jetant son ombre sur tout et tous. La maison vit, elle pulse, elle s'exprime, gémit et se venge. C'est un récit glaçant. Shirley Jackson, aux États-Unis, est connue pour ses écrits fantastiques. Elle est d'ailleurs beaucoup moins connue en France, c'est bien dommage. Des histoires complètement effrayantes. Mais là, elle atteint carrément le sommet de son art. Pas d'effet de manche, pas d'esbrouffe. Elle avance doucement. Mais à chaque page, je dirais presque chaque phrase, elle distille son venin. Chaque détail, chaque description est au service de l'angoisse, de la frayeur, de l'horreur que vont éprouver les personnages de son récit. Et peut-être même les âmes un peu sensibles de certains lecteurs. Tout est minutieusement, on va carrément dire diaboliquement, pensé et écrit. Par exemple, les noms Hill House ou bien Nelly, le diminutif de Eleanor. On entend déjà presque Hell, l'enfer. La maison hantée est, vous l'aurez compris, un livre qui m'a beaucoup plu. Pourtant, la littérature fantastique, c'est loin d'être ma tasse de thé. Mais on ne peut qu'être emporté par la force du texte, sa dramaturgie, la montée en puissance des éléments inexpliqués, que l'auteur se gardera bien d'expliquer. Je voulais citer aussi, avant de terminer, qu'il y a eu une adaptation cinématographique de ce roman, qui s'appelle « The Haunting », en VO, « Hantise » ou « La maison hantée » en français. C'est une adaptation de Robert Wise qui a été filmée en 1963. Alors, bon, on n'a pas vu, mais ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un coup d'œil.
On la trouve encore en DVD, donc.
Voilà, on la trouve encore en DVD. Un petit peu de musique.
Un petit peu de musique. Alors, en fait, pour la musique, j'ai été pioché directement, de façon évidemment théorique, dans la discothèque de Shirley Jackson. Et j'ai sorti un vieux titre de Bix Beiderbecke. Bix, de son vrai prénom, en fait, c'est Léon, donc on va l'appeler Bix, ce sera plus simple. En fait, c'est un
Marc Léon, c'est pas très compliqué non plus.
En fait, Bix est un des plus fameux cornettistes des débuts du jazz. Cornet, c'est le bugle en anglais, c'est le trompette très courte.
C'est ce que j'allais dire pour les néophytes comme moi, une espèce de trompette, quoi. Voilà.
Et ici, donc, nous allons écouter un enregistrement de 1924, donc c'est pas tout à fait récent, avec l'orchestre de Jean, ou plutôt Jean Goldkette. Le morceau s'appelle I Didn't Know. Et attention, une fois encore, ce n'est pas remasterisé, enfin, en tous les cas, on sent le 1924. I Didn't Know Bix Beiderbecke. Thank you.
c'est moi qui reprends la main parce que je prononce un petit peu mieux que toi ce nom. Donc c'était Bix Beider Beke. Voilà, c'était quand même pas si difficile. Non. Nous allons donc commencer cette deuxième partie d'émission avec un petit extrait de La Maison Hantée qui décrit justement, de manière assez diabolique, comme je disais tout à l'heure, cette maison. Aucun œil humain n'est capable d'isoler l'élément précis qui, dans la composition malheureuse des lignes et des espaces, donne une allure diabolique à une maison. Il y avait là cependant un je ne sais quoi, une juxtaposition insensée, un angle mal conçu, une rencontre hasardeuse entre ciel et toiture par lequel Hill House respirait le désespoir. Vision d'autant plus terrifiante que la façade semblait en éveil, avec ses fenêtres sombres évoquant les yeux d'un vigile, surmontés de temps à autre par le sourcil inquiétant d'une corniche. Presque n'importe quelle maison, saisie dans une perspective inhabituelle, peut revêtir cet air éloquent. Une malicieuse petite cheminée, une lucarne pareille à une fossette, et le visiteur se sentira happé dans une sorte de connivence. Mais une maison qui exhale l'arrogance et la haine, qui jamais ne baisse la garde, ne peut être que mauvaise. Hill House paraissait s'être construite toute seule, s'érigeant selon ses propres plans entre les mains de ses bâtisseurs. Elle avait surgi par sa propre volonté et dressé sa gigantesque tête contre le ciel, sans rien concéder à l'humanité. C'était une maison dénuée de bienveillance qui n'était pas destinée à être habitée, ne pouvant accueillir ni amour ni espoir. Les exorcismes sont impuissants à modifier l'expression d'une maison. Hill House resterait telle qu'elle était jusqu'au jour de sa destruction. Donc on voit un petit peu l'emprise que peut prendre cette maison et à quel point cette chose va devenir vivante. Voilà, Jacques, donc j'annonçais une deuxième actualité pour Charlie Jackson.
Voilà, donc en fait, Miles Eman adapte une des plus fameuses nouvelles de Shirley Jackson. Et en fait, Shirley Jackson, c'est aussi la grand-mère de Miles Eman. Donc Miles Eman, vous le connaissez certainement, celui qui a fait, entre autres, toutes les couvertures de la collection du Poulpe. Alors, du sujet de cette nouvelle, d'abord, c'est une nouvelle, on ne peut pas trop en raconter, forcément. Je lis juste ce qui est écrit sur la quatrième couverture. Dans un village de la Nouvelle-Angleterre, chaque année au mois de juin, on organise la loterie. Loterie avec un L majuscule. Un rite immuable où il est moins question de ce que l'on gagne que de ce qu'on risque de perdre à jamais. Alors cette adaptation, c'est entre le roman graphique et la bande dessinée. Miles Eman nous transporte au cœur de l'Amérique profonde, campagnarde, du milieu du XXe siècle. On change quand même un petit peu d'ambiance par rapport au roman dont tu parlais, surtout que ça se passe en plein été, donc à la saison des moissons. Ça commence par une vingtaine de pages muettes qui nous amènent très lentement dans le vif du sujet, la préparation de la loterie par deux hommes dans une maison sombre, une urne, des papiers blancs pliés en quatre, dont un seul, comporte un point noir. Mystère. Dans cet album, Miles Eman va user aussi bien de pages ou de doubles pages ne comportant qu'un seul dessin, que de pages plus classiques BD, diront, avec des cases et des bulles pour faire avancer la narration. Car l'important, c'est bien de mettre le lecteur en fait dans l'atmosphère, de ce patelin ensoleillé, rural, d'à peine 300 âmes. En fait, il faut que nous fassions un peu partie de cette communauté pour mieux saisir l'horreur de l'épilogue. À la 140e page, c'est quand même une BD assez...
Oui, c'est une BD très conséquente.
Une BD assez épaisse. À la 140e page, nous sommes tellement abasourdis que l'on finit par se demander « Mais est-ce qu'elle a inventé cette histoire, Shirley Jackson, ou est-ce qu'elle la raconte parce qu'elle a vu ou elle a entendu dire que ça existait vraiment ?» Miles Eman soigne beaucoup les décors, les accessoires. Il y a un plan d'une hache plantée dans un bio, où il y a un diner, où juste avant que le tirage au sort de la loterie, il y a une personne dans un diner qui discute. C'est vraiment Voilà, on y est au cœur du drame directement. Bien sûr, Miles Hyman reste fidèle à ses fameux tons orangés. En plus, il n'hésite pas à faire des gros plans, des cadrages parfois surprenants. Il insiste beaucoup sur les yeux et sur les mains, qui finissent par raconter l'histoire, sans besoin de bulles d'ailleurs. À la fin...
On va pas raconter la fin.
Non, je vais pas vous raconter. J'ai déjà dit que c'était quand même assez prenant. Les lecteurs, donc, Miles et Mann rajoutent une postface dans laquelle ils nous racontent, en quelques pages illustrées, bien sûr, la vie de sa grand-mère, de sa famille, et aussi quelques extraits de coupures de presse, des étonnantes réactions à la parution de la nouvelle originale qui est parue dans le New Yorker, donc un quotidien, en 1948. Voilà, c'est vraiment une superbe réussite. On approche de Noël, n'hésitez pas si vous voulez faire de beaux cadeaux. Voilà, c'est Miles & Mine. C'est paru chez Casterman, j'ai oublié de le préciser. Et aussi, j'ai oublié de préciser que la traduction est assurée par Juliette Hyman, parce qu'en fait, Miles est américain, et donc il a écrit ce texte, les textes aussi bien des bulles que de la postface en anglais, et c'est sa fille qui l'a traduit dans notre langue. Et quand je disais que tout à l'heure que j'avais piqué dans la discothèque de Shirley Jackson, et ben c'est exactement ça, parce qu'en fait, à la fin de la postface, Miles nous raconte exactement qu'il allait voir les disques dans la discothèque qui était assez fournie, dans la discothèque de sa grand-mère, de blues et des débuts du jazz.
Voilà, et effectivement, ce qu'on apprend dans la postface, c'est l'histoire incroyable de cette nouvelle qui, apparemment, aux États-Unis, a toujours autant de succès dans les livres scolaires et toujours d'actualité. Alors qu'en France, c'est vrai que.
La nouvelle est parue dans un recueil il y a des années. Espérons que, peut-être avec l'apparition de cette BD, l'anniversaire des 100 ans de Shirley Jackson. Et peut-être l'éventuel succès du roman dont tu as parlé tout à l'heure, les éditeurs, disons, au hasard Rivage Noir, sera tenté de rééditer le recueil de nouvelles qui contient la loterie et d'autres nouvelles dont on m'a dit qu'elles étaient tout aussi vénéneuses.
Et noires, et voilà. Donc, on rappelle le titre du roman dont j'ai parlé au début, La Maison Hantée, Shirley Jackson. Voilà, une traduction révisée par Fabienne Duvigneau et Rivage Noir chez Payot Rivage. À tout de suite.